Eh bien, bonsoir Ludivine.
Bonsoir Antoine.
Nous nous retrouvons pour la deuxième émission La main à plume. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler le sens de ce nom, La main à plume. C'était celui d'un groupe de poètes surréalistes qui, en 1940 et surtout à partir de 1942, a décidé de rentrer en résistance. Ils ont continué une revue du nom de La main à plume. Ils ont continué des publications de poèmes, des publications de textes de résistance. Et puis finalement, ils sont passés même à la lutte armée, à la résistance armée. Et mal leur en a pris, mais pour nous, c'est un bel héritage. Ils ont fini assassinés par les Allemands en 1943 dans une clairière de la forêt de Fontainebleau. Voilà, cet héritage est un héritage peu connu, mais qui nous a inspiré l'idée qu'entre la littérature, entre le monde des idées, le monde des mots et le monde de la résistance en actes, des gestes, entre la plume et la charrue, puisque cela fait référence à un très beau poème de Rimbaud, il n'y avait pas de déliaison, au contraire, il y avait plein de liens tissés et qui s'expriment d'autant aujourd'hui.
Merci Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'équipe du Média de nous accueillir pour cette deuxième émission que nous consacrons aux Gilets jaunes. Nous pourrons partir de ce qu'on a pu lire sur un des gilets. Nous sommes tous des femmes et des hommes politiques. C'est une formule qui nous a beaucoup marqués, qui nous semble vraiment très importante pour caractériser ce mouvement qui a décidé de se réapproprier la chose politique, de se sentir légitime à faire du commun et à sentir véritablement en prise avec le monde tel qu'il est et tel qu'il ne va pas. Pour nous, il ne s'agit pas du tout d'une commémoration. C'est vrai que c'est l'anniversaire, le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, mais il ne s'agit pas pour autant évidemment de l'enterrer, mais au contraire de montrer toute sa vitalité, toute sa force. À nos yeux, c'est à la fois un surgissement, un événement au sens fort du terme. C'est aussi un soulèvement populaire qui pose des questions essentielles en termes de justice sociale, de justice fiscale, mais aussi de démocratie, et on aura l'occasion d'y revenir. Il faut d'abord souligner, avant de présenter chacun et chacune de nos invités, que tous autour de la table, soit nous sommes Gilets jaunes, nous nous sentons Gilets jaunes, soit nous sommes en forte sympathie avec ce mouvement, qu'il est hors de question pour nous de regarder de haut. À nos yeux, il y a vraiment un mouvement social qui est l'un des plus durables de l'histoire et qui, encore une fois, pose des enjeux absolument essentiels. Et nous étions plusieurs autour de cette table à être place d'Italie il y a quelques jours. C'est un moment qui nous a beaucoup marqués. La NAS, l'idée même d'un État policier qui s'incarnait dans cet espace. On a été tous très choqués, profondément tristes et profondément indignés aussi que, encore une fois, une personne, Manuel de Valenciennes, perde un œil à l'occasion de cette répression policière. Et c'est de ça qu'on veut parler, sans à aucun moment dépolitiser ce mouvement.
Nous avons ce soir avec nous quatre autrices et auteurs auxquels nous souhaitons poser quelques questions un peu fondamentales. Bien entendu, premièrement, pourquoi ont-ils écrit ou pourquoi ont-ils œuvré sous l'inspiration du surgissement du mouvement des Gilets jaunes? Bien entendu, un an après, se pose la question de qu'est-ce que leur travail et leur relation au mouvement des Gilets jaunes a produit en elles et en eux. Et bien entendu, pour finir, puisque nous sommes un an après et que les choses ne s'arrangent pas, quel est leur jugement, quelle est leur perception de ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes?
Alors, nous sommes vraiment très heureuses et heureux de vous accueillir. Merci beaucoup de votre présence. Je voudrais commencer par présenter Pascal Fautrier, qui a publié ce livre « La vie en jaune » aux éditions Au Diable Vauvert. C'est un livre vraiment très important parce que d'un côté, il est vraiment en prise au sein même du mouvement des Gilets jaunes. Pascal, tu es allé sur les ronds-points, dans les cabanes, à Commercy, dans les assemblées des assemblées. Donc il y a vraiment une restitution pleine d'émotions, de passion aussi. Hein, tu te dis à bien des moments passionné, en colère, en rage aussi, face à cette violence qui s'abat. Tu te dis aussi prête à endosser plutôt ce que tu nommes un gilet orange pour faire une sorte de fusion entre le gilet jaune et le gilet rouge qui était aussi familier. Et donc c'est un livre aussi d'une grande subtilité dans son analyse politique. On y reviendra. reviendra, des clivages aussi hein, qui dessinent et qui traversent le mouvement, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être irénique, de considérer que ce mouvement serait un bloc homogène. Nous avons le grand plaisir aussi, et nous lui sommes très reconnaissants et reconnaissantes, d'accueillir Edwy Plenel, qui a publié donc aux éditions La Découverte, La Victoire des Vaincus, à propos des Gilets jaunes. Donc c'est un livre, Edwy, que tu as voulu, là aussi, très en prise et en empathie avec ce mouvement dont tu considères qu'il s'agit d'une bataille pour l'égalité, qu'il est hors de question à tes yeux d'avoir la condescendance de classe de ce que tu nommes les commentateurs au perché, ou alors la distance des sachants, ou ce mépris qu'on a pu aussi observer chez un certain nombre d'observateurs ou d'intellectuels. Donc c'est vraiment un livre très engagé, très sensible, et qui rend compte avec beaucoup de finesse, bien sûr, de la situation politique et de ses évolutions. Merci Edwy. Patrick Farbiaz, tu es à la fois militant écologiste, tu es gilet jaune, comme le gilet le montre bien, tu as tenu à le porter, on t'en remercie. Tu es partie du collectif Gilet jaune du 20e arrondissement à Paris, et tu as consacré ce livre aux éditions donc, du Croquant, Les Gilets jaunes, documents et textes, puisque très rapidement, tu t'en expliques et on y reviendra, tu n'as pas voulu être là non plus à distance de ceux que tu nommes les sans-culottes, en quelque sorte, de notre temps. Tu as voulu être vraiment en phase avec ce que tu as appelé les zones d'action démocratique, hein, d'autres ZAD, les zones d'action démocratique, et avec cette volonté aussi, comme tu l'avais fait déjà pour Nuit debout, de restituer la parole vive et les élaborations politiques de ce mouvement. Donc merci beaucoup Patrick d'être là. Et puis on est ravis aussi de t'accueillir Mathilde Larère, donc historienne, spécialiste des révolutions, des mouvements révolutionnaires, des soulèvements populaires, notamment au XIXe siècle, mais pas uniquement. Et tu as publié aux éditions du Détour, Il était une fois les révolutions, un livre particulièrement vivant, savoureux, plein d'humour, de recettes même, pour penser un peu de manière joyeuse, les révolutions sous la forme d'une sorte d'allemagne qui nous permet de scander au jour le jour tous ces soulèvements dont le mouvement des Gilets jaunes porte l'héritage.
Et puis, vous êtes tous les quatre présents avec nous ce soir, mais il y a des personnes que nous avions invitées et qui regrettent de ne pas être là, et ça a un écho avec le travail des uns et des autres. Je pense notamment à Daniel Salnave, dont le Jojo, le gilet jaune, nous a tous, je crois, beaucoup marqués, et qui a des échos sur sa façon de tenir à la République sociale avec ce que Edwy Plenel développe lui-même dans son livre. Il y aura surtout des images aussi dans cette émission pour illustrer tout le cours de notre discussion, des images photographiques de Serge D'Ignazio, qui a couvert chacun, quasiment, sauf exception, des actes de Gilets jaunes depuis un an. Il y aura des dessins de Fred Sochard, que nous aimons beaucoup, Ludivine et moi-même, et Mathilde aussi, et peut-être beaucoup d'autres, et qui, très généreusement, nous a autorisé, et même nous a donné ces dessins pour participer à l'illustration de cette émission. Il y aura peut-être des photos de Brice Le Gall qui publie tout récemment, puisque c'est aujourd'hui même Justice et Respect, qui est en fait un reportage à la fois sociologique et photographique. Il est l'auteur des photos avec Thibaut Ciseaux et Lou Traverse. C'est aux éditions Sileb. C'est là aussi de magnifiques images dans la tradition de la photographie documentaire. Voilà. Donc nous aurons tous ces talents, parce qu'ils sont divers, et dans l'écriture, mais aussi dans l'image, qui vont essayer de transparaître à travers l'émission que nous organisons ce soir.
On voudrait commencer cette émission en évoquant la dureté de la situation politique. Il nous a tous et toutes semblé que cette situation ressemble à une sorte de rouleau compresseur d'une grande violence. Edwy, dans ton ouvrage « La victoire des vaincus », tu parles d'un État sans humanité, d'un État de police qui pratique notamment une politique d'inhospitalité, peut-être à l'inverse de ce que nous montre le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que tu peux un peu revenir justement sur cette situation d'une 5e République à l'agonie, telle que tu l'as décrit dans La Victoire des Vaincus?
Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Jamais depuis la libération et les mouvements sociaux un peu forts, un peu violents et violemment réprimés qu'il y a eu dans la foulée de la libération après la guerre, il n'y a eu une répression étatique, policière, judiciaire d'une telle ampleur contre un mouvement social. Et contre un mouvement social profond, contre un mouvement social de la société, On l'a documenté, les 25 éborgnés, les 5 mains arrachées, le nombre de blessés, les plus de 10 000 gardés à vue, les condamnations, les amendes qui ont payé très fort. Ce sont des primo-manifestants. C'est le peuple. Jamais on a vu ça. D'où la résonance à laquelle on a tous pensé. Avec la violence bourgeoise au moment de la Commune de Paris. D'ailleurs, nous sommes là autour de cette table, mais il y a quelques jours, un de ces éditorialistes de l'ordre installé a dit « Oui, monsieur Thiers, il a sauvé la République !» Eh oui, bon, on lui dit quand même « Il a massacré les communards. » Oui, d'accord, bon, monsieur Macron n'a pas encore massacré, mais enfin quand même, si monsieur Thiers n'avait pas sauvé la République, Lénine serait maire de Paris. L'époque est dangereuse, et elle les rend bêtes, elle les rend stupides. Elle les rend encore plus stupides, encore plus violents. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, mais l'adversaire, de ce point de vue, montre un visage. Donc, cette violence, elle est là. Mais moi, je voudrais, justement, pour qu'on ne soit pas dans le rétroviseur, plutôt être dans les phares. Il y a la plus grosse attaque contre tous les acquis sociaux, pareillement, depuis l'après-guerre. Tout y passe. La sécurité sociale, l'assurance maladie, le chômage, les retraites, tout y passe. Et c'est pour ça que le poison de la xénophobie, de l'islamophobie sont brandis pour qu'on fasse diversion. Et donc, toutes les forces qui nous écoutent, je suppose, qui écoutent le média, toutes les forces dites de gauche, elles ont rendez-vous, là, je pense, avec l'occasion qu'elles ont manquée. Il y a eu crime de non-assistance à peuple en danger. On peut s'interroger quand arrive l'événement en novembre. Puis on voit décembre, le 8 décembre. Mais après, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses que... Comment ? Toutes les organisations de gauche n'ont pas appelé à un grand rassemblement, une grande manifestation auprès des Gilets jaunes. Pas dire que les Gilets jaunes me récupèrent, que je les dirige, que je ceci. Non. 9 mois jusqu'à l'été, et ils sont toujours là. Il y a eu non-assistance. Car quand vous allez aujourd'hui sur les ronds-points, nous y avons été à Mediapart ces temps-ci, il y a beaucoup d'aigreurs. Il y a beaucoup de ressentiments. Il n'y a pas de la gaieté. Parce que quand même, on a dégusté très fort. On a pris très fort. Et donc, je dis ça parce que, pour moi, l'enjeu, il est là. Et qui rejoint la question de la violence. Face à la violence étatique, ce soi-disant monopole légitime de la violence que revendique l'ordre dominant, il y a de la violence en face. Mais si cette violence n'est pas accompagnée, n'est pas adossée à une dynamique majoritaire, massive, elle est instrumentalisée pour décrédibiliser. Nous savons que 89, 1830, 1848 et ainsi de suite, il y a toujours eu besoin d'une violence pour changer l'ordre dominant. Mais cette violence qui aujourd'hui est du côté des vainqueurs, qui est célébrée, cette violence, elle a accompagné, elle a eu la légitimité d'un mouvement de masse. Et la question qui est posée à partir du 5 décembre, c'est est-ce qu'un mouvement de masse de la société, puisque là, normalement, toutes les forces s'y retrouvent, même les policiers veulent manifester, même les avocats veulent manifester, même les magistrats, ceux qui sont concernés par toute cette répression. Eh bien, la question, elle est posée là, de est-ce que nous réussirons à faire masse ?
Edoui, il y a une autre violence encore, parce que tu parles de la violence étatique, mais il y a la violence systémique, il y a la violence du système économique, social et politique, bien entendu. Dans ton livre, tu parles des trois violences. Tu fais une citation assez célèbre.
– Don Elder Camara, absolument, religieux qui, de la théologie qui, de la libération. –
De la libération, et qui a vu dans un contexte, finalement, qui a des relations avec notre contexte, ce qu'il en était de cette violence primordiale, disons les choses. Il y a aujourd'hui peut-être convergence de la violence étatique en défense de cette violence systémique. L'appel que tu fais pour le 5 décembre n'est-il pas justement un appel à contrer ces violences, pas seulement étatiques, mais la violence du système ?
Je pense qu'on n'a qu'un seul levier, c'est ce que j'ai toujours appelé les causes communes de l'égalité.
Excuse-moi, le mouvement des Gilets jaunes, il est une révolution contre cette violence systémique ?
Il est un sursaut de l'égalité. C'est ce que nous avons tout de suite vu, constaté. Il suffisait d'aller sur le terrain, y compris le point de départ fiscal. C'est contre l'injustice fiscale. Ce n'était pas un mouvement contre l'impôt qui permet qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des hôpitaux. C'était un mouvement contre l'injustice. Et les chiffres, je les donne dans le livre, mais vous les connaissez. Il y a eu, en un an, un choix qui a été fait, que globalement les 95-99% ont payé plus d'impôts et qu'une petite minorité, la réduction en un an de l'impôt sur les sociétés, sans compter l'impôt sur la fortune, de 30%, de 30%. 30% de recettes de moins chez les plus riches, alors que c'est une règle depuis 1789. Mathilde est là, il y a une historienne. La Révolution française, elle démarre par la question de l'impôt. On veut savoir comment on va lever l'argent et à quoi il va servir. Et donc l'égalité devant l'impôt, qui veut dire quoi l'égalité? Ça veut dire que si tu en as plus, tu payes plus.
Et c'est une règle républicaine. L'inégalité est devenue une violence.
Mais c'est là où la question, y compris, et c'est là la dynamique politique des Gilets jaunes, a minorisé très rapidement le racisme, la xénophobie. Parce que si on est sur le côté de l'égalité, si on est du côté des causes communes de l'égalité, eh bien évidemment qu'on minorise ça. Parce que quel est l'adversaire historique de l'émancipation ? C'est les tenants de l'inégalité naturelle. C'est ceux qui pensent qu'il y a des sexes supérieurs à d'autres, des civilisations supérieures à d'autres, des nations supérieures à d'autres, des cultures supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres. Donc pourquoi les Gilets jaunes étaient d'emblée un mouvement dont la dynamique était progressiste et émancipatrice? Parce qu'elle portait l'égalité. Et c'est pour ça qu'elle a mis de côté l'extrême droite et que l'extrême droite... Il y a eu un je rappelle juste, ne jamais oublier le tournant. C'est quand l'extrême droite qui essayait d'infiltrer va armer, cogner le cortège du NPA qui était avec les Gilets jaunes. Et c'est le moment où on a compris qu'ils voulaient insuffler cette violence. Mais, et c'est l'enjeu qui est encore une fois devant nous, les causes communes de l'égalité. C'est pour ça, je dis ça parce que ceux qui barguignent, le jour où il y a l'islamophobie, le jour où il y a MeToo, le jour où il y a les Gilets jaunes, le jour où il y a Greta Thunberg et l'écologie, comme par hasard, c'est les mêmes. On le voit aujourd'hui. Les conservateurs, c'est les mêmes. C'est tous ceux qui se pincent le nez sur une de ces causes-là. Toutes ces causes-là sont les causes du moment.
La fracture est violente. Je pense que sur les ronds-points, ou là où vous avez été, à Commercy, que ce soit Pascal ou Patrick, vous avez vu ce qu'il en était de cette violence aussi. Violence du système, éventuellement violence de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous ?
Alors moi, ce qui m'a touché, ce qui a fait que j'ai rejoint, que j'ai... pas tout de suite, mais presque immédiatement, était bouleversée par ce mouvement, c'est que j'ai vu qu'effectivement, il y avait une convergence dans la rue entre des gens qui étaient totalement précarisés par la situation sociale, des gens qui l'étaient moins, mais qui étaient des salariés pauvres, et puis effectivement des petits patrons, donc une sorte de soulèvement populaire dont en fait, structurellement, la signification est une révolte contre l'ordre établi. Je pense que ça, c'est une chose qui est sûre. C'est-à-dire que, quelles que soient les forces politiques qui ont lancé le mouvement, je pense qu'on y reviendra après, il faut différencier le fait que ça a pris, que ça a pris une dimension populaire à partir d'une souffrance sociale extrêmement aiguë. Et que du coup, oui, il faut vraiment différencier les forces politiques qui ont lancé le mouvement, je pense, on y reviendra, et puis ce succès qui vient structurellement d'une société qui est devenue totalement insupportable. Mmh. Et à Commercy, aussitôt, ce qui a été mis en place, par exemple, quand je suis arrivée début janvier, il faisait très très froid, c'était une soupe populaire, c'était l'évidence, hein, c'est-à-dire d'accueillir, alors que les cassos ne faisaient pas l'unanimité au départ, forcément dans le mouvement, ça pouvait être des gens dont on se moquait, etc. Mais il y a eu très très vite un accueil qui s'est fait, des gens encore plus dans la souffrance, des gens encore plus en difficulté.
Donc c'est ça, ce... de la violence, en fait.
Oui, voilà. Et du coup, c'est pas la peine de s'interroger, je crois, longtemps sur le sens politique de ce soulèvement populaire. En effet, je pense même qu'il faut aller plus loin et que ça dérange beaucoup de gens. C'est l'ordre établi capitaliste qui est mis en cause à un moment donné par le succès populaire et par cette rage de la souffrance et de la misère qui s'exprime d'une manière que j'ai trouvée incroyablement inventif politiquement, notamment à Commercy. Je trouve que les appels de Commercy, les gens qui parlent devant la caméra avec ce qu'ils sont, on voit très bien que c'était primo-manifestants, alors là, pour le coup, effectivement, que c'est des gens... à partir de ce qu'ils sont, ils ont une parole politique qui est, je pense, du même type que la parole révolutionnaire qu'on a pu rencontrer à différents moments de l'histoire, même si on y reviendra. justement avec une ambiguïté de ces moments révolutionnaires. La Révolution française, bien, tout le champ politique actuel est issu de la Révolution française, donc effectivement les références à la Révolution française étaient ambiguës. Moi je voudrais juste ajouter que ce que j'ai senti de plus fort, si on veut traduire politiquement cette révolte à partir d'un sentiment de misère, que c'est plus possible, qu'ils vont, ils vont nous conduire à la misère. Enfin, moi, je suis prof, quand je vois qu'on va réduire 30% ma retraite, je me dis, ben voilà, j'ai fait une thèse, j'ai passé une agrégation, et je vais finir ma vie dans la misère. Donc, il y a ce cri-là. Mais si on le traduit politiquement, je crois que ce qui est le plus juste, c'est de dire qu'il y a une sorte de nostalgie républicaine. Il y a l'idée qu'il y a eu une république, alors après il faut discuter de savoir si cette république a existé, c'est une autre question, mais qu'il y a eu une république qui était une république redistributrice et que depuis Sarkozy, y compris dans le discours, la mission redistributrice de cette république a été abandonnée. Donc je crois que ça c'est vraiment le sens politique sur lequel peut-être on peut s'entendre, cette nostalgie républicaine qui est aussi ambiguë, on y reviendra, mais qui est je pense, le sens politique sociale, le plus profond.
C'est l'extrême gauche de 1848, et ouais, ça met un siècle à être dans la Constitution française. Ouais, la République, ouais. C'est un mouvement. Ce n'est pas une immobilité, et c'est pour ça qu'elle a des adjectifs. Elle bouge. Et quand vous entendez un républicain dire « je suis républicain sans adjectif », vous êtes sûr que c'est un conservateur. C'est pas un républicain au sens où nous l'entendons.
– Mais là, on entre déjà dans la complexité.
– Edoui, dans La victoire des vaincus, tu évoques en fait ce régime de Macron qui se voulait neuf, mais qui en réalité, le vieux monde, hein, à Montreuil, les Gilets jaunes ont dressé leur cahier de doléances au vieux monde. Tu montre qu'il s'agit à tes yeux de, non seulement d'une monarchie élective, mais bel et bien en fait d'une sorte d'ancien régime. Alors Mathilde, comment tu verrais les choses par rapport notamment à ce qu'indiquait Pascal sur le fait que cette souffrance, cette détresse, ce désarroi social prend la parole en fait et révélé à la faveur même de la révolte ?
Dans les causes, on va dire les causes profondes, pas l'étincelle. L'étincelle, c'est la taxe carbone, mais les causes profondes, c'est la violence sociale, la violence politique, qu'on trouve par ailleurs dans d'autres espaces qui actuellement sont en train de vivre des soulèvements qui ne sont pas... c'est pas les Gilets jaunes, mais c'est lié, que je pense au Chili, au Liban. Et en fait, à chaque fois, on a finalement les mêmes logiques, les mêmes violences qui sont fabriquées par le même capitalisme, par le même néolibéralisme et le néolibéralisme qui capte. J'aime bien le terme de Jérôme Bacher dans son livre Une colère juste, c'est la dépossession de tout, quoi. Et juste, je regarde dans le rétroviseur, mais j'y peux rien, c'est mon boulot, donc j'ai une espèce de déformation. On parlait au tout début de la répression étatique qui est très violente. Et alors, elle est très violente contre un mouvement social, mais en même temps, là où on l'a vu, cette répression étatique, il ne faut pas l'oublier, c'est dans les violences, finalement, dans les logiques coloniales. C'est-à-dire que cette violence étatique, on l'a vu le 17 octobre 61, on l'a vu à Charonne, on l'a vu en mai 67 en Guadeloupe. Et là, la nouveauté, c'est que d'un seul coup, on la revoit contre un mouvement et dans les quartiers populaires. 2005. Ouais. Et en fait, là, voilà, donc c'est pour ça qu'on a une histoire longue de la violence étatique à chaque surgissement révolutionnaire que ce soit. Alors, on cite plus facilement 48 que 30 parce que même si 30, il faudrait le réhabiliter parce que il y a 1830. Ah oui, j'y peux rien.
Comme je vis dans ma tête un peu au 19e siècle,
je donne les
27, 28, 29 juillet.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que de toute façon, toute révolution est un moment de surgissement de la parole, de la parole d'organisation. En 1830 s'expriment les ouvriers qui s'exprimaient peu auparavant, s'expriment les femmes, s'expriment les exilés, s'expriment, et donc on a ce phénomène. Et on a la même chose en 1848 avec, alors ça va plus loin en 1848 parce que cette parole populaire est accueillie dans un premier temps en 1848 alors qu'en 1830 elle est tout de suite écrasée. Et pour revenir, moi je ne pense pas qu'on est dans un système de monarchie absolue, je pense qu'on est dans un orléanisme un peu teinté de bonapartisme ou un bonapartisme.
Monarchie élective.
C'est ça. Oui, c'est un mélange d'orléanisme et de bonapartisme, et c'est pour ça que la plupart d'ailleurs des textes de Macron ressemblent en. assez à des discours de Thiers, à des discours de Maxime Ducamp contre la Commune, à des discours au lendemain de juin 48. C'est le même mépris social, c'est la même haine du peuple, c'est la même chose. Et en face, ce qui se dresse, c'est dans la continuité de 93, donc 1793, 1848 et la Commune, c'est la République démocratique et sociale. C'est la sociale avec un grand S. Ouais. C'est celle-là qui est en train de renaître. La belle, la belle.
Patrick, sur les ronds-points et là où tu as été, et aussi à Commercy, qu'est-ce que tu as ressenti de cette violence, non pas des gilets jaunes, mais du système pour commencer, et éventuellement des répressions, parce qu'il y a eu aussi de la répression sur ces lieux, pas seulement à la place d'Italie, à Paris, ou à Paris, dans les manifestations du samedi.
Et pour prolonger la question, par rapport à ce que disait Mathilde aussi, tu évoques les Antilles, tu évoques ce qui s'était passé en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane également, contre la profitation. Donc là, on est aussi dans un prolongement de ces révoltes et de la violence qui les a réprimées.
Oui, d'ailleurs, le mouvement du LKP a certainement préfiguré complètement quelques années avant.
2008-2009. Voilà, les modes d'action, c'était les ronds-points.
L'objectif, c'était les taxes et les impôts. Et le mouvement était un mouvement populaire, avec peut-être plus structuré par les syndicats, notamment l'UGTG. Mais c'était fondamentalement, disons, la matrice du mouvement des Gilets jaunes, sans qu'il y ait d'ailleurs conscience chez les Gilets jaunes de cet antécédent. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est... Alors, je suis d'accord sur l'égalité, etc., mais c'est que, pour moi, en tant qu'écolo, c'est la question de la survie qui était au centre de cette affaire. C'est-à-dire que les écologistes disent souvent, les Indiens d'Amazonie, par exemple, ils sont vraiment écolos, parce que... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent leur terre, leur territoire, leur famille, leur village, contre des multinationales qui veulent exploiter le pétrole ou l'or, ou contre la déforestation faite par des bûcherons, etc., etc., contre l'agroforesterie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes? Ils ont essayé de défendre leur mode de vie qui était piégé, qui était contraint, où le premier du mois, à 80% du revenu ou du salaire, pour ceux qui en ont, était déjà pris par non seulement les impôts, mais les traites sur les pavillons ou les loyers, le gaz, l'électricité, etc. Et donc, souvent, les gars disaient, ou les femmes disaient, surtout les femmes d'ailleurs, on ne peut même pas payer un jouet à notre enfant, on ne peut même pas aller au cinéma. D'ailleurs, il n'y avait plus de cinéma.
Les retraités.
Et les retraités, bon. Et donc, il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait pas de loisirs, etc., parce que de toute façon, les services publics ou tous les trucs de loisirs avaient disparu. Et donc, il fallait faire 50 km, aller-retour, 100 km, pour simplement pouvoir jouer de ce que un Parisien ou un Lyonnais ou un Marseillais fait normalement. Donc, ça a été une révolte pour la survie. C'est pour ça que moi, j'ai... Pas dans le bouquin, d'ailleurs, mais tout de suite, j'ai compris, après le bouquin, en discutant, j'ai justement à Commercy, d'ailleurs, que c'était un mouvement de nature sociale écologique. C'est-à-dire qu'il posait les problèmes de l'aménagement du territoire, des transports, de l'énergie, de l'urbanisme, etc.
Des besoins réels.
Des besoins réels, d'un point de vue social, écologique, et bien mieux que, disons, l'écologie d'en haut, l'écologie officielle qu'on voit, etc., qui est plutôt une écologie des classes moyennes aisées des villes métropolitaines. Et donc ça, c'est ça qui, moi, m'a frappé, parce qu'en même temps, il redécouvrait quelque part, le fondement même de l'écologie. C'est plus de liens, moins de biens. Donc c'est Illich, hein, c'est la fraternité des ronds-points. C'est agir local, penser global. Parce que, c'est un mouvement qui agit localement, mais qui s'attaque non seulement à l'État, mais au capitalisme, comme tu l'as dit.
Et donc, de ce point de vue. Hein,
aussi, c'est nous voulons vivre et travailler au pays. C'est la relocalisation des activités, etc. C'est le commun, c'est la gratuité, c'est toutes ces espérances qui ont été soulevées par l'écologie, mais d'un point de vue idéologique, qui là était mis en acte par un mouvement réel, par le mouvement social. Et ça, je crois que c'est extrêmement fort pour l'avenir. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, que ce mouvement a pollinisé, je dirais, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Parce qu'on voit que les révoltes qui se passent, que ce soit en Algérie, au Chili, en Irak, au Soudan, etc., eh bien, il y a toujours les trois mêmes objectifs qu'a le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, le premier, c'est le droit de vivre dans la dignité, le droit à une vie décente. Les gens disent ça en pouvoir de vivre, en pouvoir d'achat, etc. Mais la réalité, c'est on veut vivre un peu comme ce que disent les latinos, hein, c'est-à-dire, c'est le buen vivir. Voilà. Le deuxième objectif, c'est le droit au respect. Parce qu'un formidable moteur, ça a été Macron lui-même de ce mouvement. C'est-à-dire ces insultes en permanence.
Hein,
on est rien, enfin, vous êtes rien, etc. Enfin,
les illettrés,
les trainéants, etc., etc. Donc et quand on s'aperçoit qu'il donne comme ça 17 milliards, alors on peut penser ce qu'on veut, et que les gens sont déçus, eh bien, surgit l'histoire du RIC. Mais pourquoi? Parce que les gens, et ça dans tous les mouvements, vous le voyez, ils veulent le droit à décider à un moment donné. Parce qu'ils s'aperçoivent que, eh bien, si on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait, hein, eh bien, on veut maintenant le faire nous-mêmes. Et on veut avoir le droit de décider. Alors, c'est le RIC, c'est ailleurs l'Assemblée constituante, c'est y compris le municipalisme à partir de Commercy, etc. Mais c'est le fait de, là, entamer une révolution démocratique, comme tu disais.
Patrick, à juste titre, tu as insisté sur ce que les Gilets jaunes montrent, c'est-à-dire l'aspiration à la reconnaissance, l'aspiration à la dignité. Ce qu'on a vu beaucoup sur les ronds-points, dans les cabanes, que tu décris vraiment avec beaucoup de force dans La vie en jaune, Pascal, notamment cette solidarité, cette hospitalité, ce que tu dis sur le fait que les personnes se sentent regardées, se sentent prises en considération, se sentent reconnues et reconnaissent les autres, que même dans des situations de grande détresse sociale, chacun et chacune arrive avec de quoi partager quelques gâteaux, du café, voilà, cette idée d'un partage qui est déjà une expérimentation du commun, ce qui va nous permettre aussi de discuter vraiment un peu plus précisément, de manière plus tranchée, des enjeux politiques que soulève le mouvement, encore une fois sans être irénique, mais en montrant sa complexité et ses clivages aussi. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces enjeux-là de partage?
À Commercy, moi, ce qui m'a fascinée, c'est pour ça que j'y suis allée début janvier, c'est que nous avons toujours, je crois, un rêve qui est que chacun puisse participer à la vie politique, chacun puisse décider de sa vie, que de nouveau les gens puissent se parler, s'entraider. Et je crois que ça, ça a été beaucoup, beaucoup dit. Donc je ne vais peut-être pas non plus redire des choses qui ont été beaucoup dites ailleurs. Mais effectivement, le fait que tout d'un coup, les gens puissent à nouveau vivre une vie humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas chacun dans son coin, dans l'isolement, et se rendre compte aussi que la difficulté sociale ne les renvoie pas à un manque personnel. C'est-à-dire que elle est aussi une aventure collective et que du coup on peut se soutenir dans cette difficulté et qu'on peut peut-être inventer un autre monde. Donc je crois qu'effectivement ça c'est l'aspect le plus positif du mouvement. Il y a des gens qui pensent et je suis pas loin de penser, même si j'ai aussi une autre sorte de, j'ai aussi un petit pessimisme politique, mais on peut penser que on a vécu l'an 1 d'une révolution après tout. On peut le penser. Et puis, il faut aussi quand même, peut-être, j'espère que ça va être le lieu ici d'aborder ces questions qui fâchent. C'est-à-dire que pour protéger la dynamique du mouvement, pour protéger la dynamique même révolutionnaire de ce rêve, beaucoup de monde a fait le pari d'une sorte d'unanimisme apolitique, qui est en réalité, quand on était sur les ronds-points, un unanimisme apolitique de façade, qui est en réalité factice, puisqu'au contraire, et c'est ça une révolution, il y a eu en même temps une accélération de la politisation, avec bien sûr la présence de militants politiques, et on sait très bien quand un militant politique est dans un groupe, il a une sorte de poids, les habitudes de parler, l'habitude d'avancer
des... Militant, quoi,
voilà, donc il a une influence, et il est évident que les différents ronds-points ont été sous influence de certains types de gens très différents en fonction des ronds-points. Et je crois que quand on voyait les choses de près, on voyait une chose très remarquable, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une sorte de fractal de la société, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les sensibilités politiques de l'extrême droite aux libertaires et à l'extrême gauche. Et c'est pour ça que je crois que si on ne regarde pas en face cette pluralité politique et la conflictualité qui en a résulté, qui a existé aux assemblées des assemblées, d'une manière que parfois moi j'ai trouvé extrêmement violente, notamment par rapport à nos amis de Commercy qui sont devenus des amis bon, et qui ont quand même été un peu marginalisés dans ce qu'ils avaient inventé, à savoir l'idée de construire une assemblée des assemblées de gilets jaunes. Donc cette conflictualité politique, elle a été en réalité extrêmement présente, contrairement à ce que tout le monde dit. Et j'espère qu'on va pouvoir entrer dans le détail. Mais cette décision politique avec laquelle je peux dire ici que je suis en désaccord maintenant sur le fait que pour sauvegarder l'unanimité du mouvement, il faut conserver cette façade apolitique. Je pense que c'est un point d'impuissantation du mouvement. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on voit très bien que les limites politiques de ce mouvement viennent au contraire de ce que on s'empêche, les militants s'empêchent de poser les questions politiques qui fâchent. Je pense qu'à un moment donné, une révolution réussit s'il y a des gens qui opèrent des clivages. Lénine, avec les thèses d'avril en 1917.
Mais où était Lénine, là ? J'ai pas compris.
Je veux dire, à un moment donné…
Où était Lénine ?
Oui, peu importe.
Où était Lénine ? Non, mais pour qu'on soit dans le réel, y avait-il une organisation vraiment organisée, présente dans le mouvement ? Des militants, oui. Je dis ça, c'est un témoignage, et Ludivine est témoin. Je prends une organisation, le NPA, nous sommes intervenus à un débat sur les Gilets jaunes avec l'historien Gérard Noiriel. Tous les militants qui étaient sur les ronds-points ont intervenu, ont dit, on a fait ça de manière individuelle. Il n'y a même pas eu une coordination. Une coordination, on sait faire à l'extrême gauche normalement. Donc c'était des individus. Hein. Ce que je veux dire juste, même en prenant les organisations qui ont été les plus favorables, ce n'a pas été une dynamique des organisations.
Il faut être lucide
sur le résultat un an après. C'est-à-dire que je le dis juste parce que quand même, quand je dis non-assistance à peuple en danger, certains ont essayé de faire des réunions unitaires, des réunions, je veux dire, les thèses d'avril, c'était aussi rassembler tout le monde, les soviets, etc. Oui. Ce que je veux dire, parce que ne nous payons pas de mots par rapport à la catastrophe qui est en cours.
Oui.
Et la catastrophe, elle requiert et elle bouscule les professionnels de la politique et les avant-gardistes de la politique. Parce que l'événement de Gilets jaunes, c'est aussi de mettre en cause ces avant-gardes et ces sachants qui se sentent propriétaires de ce qui est bien. Or, quand
c'est
même,
un peu contradictoire ce que vous dites, Edoui.
Non, c'est pas contradictoire. On se tutoie, je croyais, comme sur les ronds-points. Et donc, ce n'est pas. Je dis juste que ça a été vraiment. Le fait, nous, dans notre réalité professionnelle, on a été tout de suite et on a vu cette réalité. On en a vu plein qui étaient au-dessus des bras croisés. Et je dis ça parce que les conséquences sont là aujourd'hui. Je dis vraiment.
Je trouve qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à la fois, vous reprochez aux organisations de ne pas avoir été là.
De ne pas avoir joué le jeu du mouvement jusqu'au bout, oui.
De ne pas avoir joué le jeu du mouvement. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, excusez-moi de vous le dire. C'est-à-dire que le problème, et c'est ce que j'essayais de dire, et qui n'est pas contradictoire complètement avec ce que vous dites. Ce que j'essayais de dire, c'est que les organisations étaient présentes, que les dirigeants de ces organisations savaient que certains de leurs militants étaient présents, et qu'ils ont fait le choix d'apparaître d'une manière que j'appellerais plus ou moins masquée. Et je pense que c'est une erreur, et pas parce que c'est des méchants et qu'ils veulent se masquer, c'est pas pour ça, parce qu'ils ont pensé que pour sauver la dynamique du certains militants l'ont pensé sincèrement, d'autres peut-être moins, mais certains militants ont pensé sincèrement, et notamment, je pense toi, Patrick, certains militants ont pensé sincèrement qu'il fallait d'abord sauver la dynamique unanimiste du mouvement, notamment parce qu'il y avait l'extrême droite présente. Et que du coup, effectivement, si on se présentait en tant que militant sur les ronds-points, on se faisait juste jeter à certains endroits.
Ma grille de lecture à moi, elle est plus large. Et je pense que dans tout mouvement social, on le sait, il y a une gauche, une droite, un centre. En mai 68, en gros, la gauche, c'était les organisations révolutionnaires, etc. Le centre, quelque part, c'était Cohn-Bendit, enfin, c'était les porte-paroles, déjà, qui étaient proclamés par les médias, mais qui étaient reconnus par tout le monde. Et puis, la droite, c'était le PC et la CGT, de fait. C'est-à-dire, c'est les gens qui structuraient le mouvement ouvrier, etc. Et puis, l'autre, tout le reste, c'était... les fascistes, l'État, le gaullisme, tout ce que tu veux, c'était en dehors du jeu. Là, on est face à un mouvement profondément populaire qui, comme pendant la Révolution française, rassemble tout le monde, toutes les catégories politiques. Moi, je veux dire, quelqu'un qui est devenu un de mes copains, tu vois, dans le 20e, c'est le responsable des Républicains de mon quartier. C'est lui, Jean-Michel Valentin, Jean-Christophe Valentin, qui toutes les semaines, depuis 6 mois, c'est lui qui déclare les manifs nationales des Gilets jaunes à Paris. Et bien ce gars-là, il tient depuis 20 ans le bureau de vote pour le RPR, ensuite pour... etc. Il est toujours aux Républicains. Il est toujours républicain. Il va être certainement sur la liste de Rachida Dati. Il va officiellement dire ben, « je me retire des Gilets jaunes ». Moi, ça ne me pose pas de problème, justement.
Je suis d'accord avec Patrick. Moi, ça ne me pose pas de problème.
Parce que, justement, il y a une sorte de fraternité, et d'ailleurs, y compris avec des militants du NPA, de Lamberti, ce qu'il y a dans... Donc, et ce que j'ai vu, moi, si tu veux, au-delà de Commercy, c'est que cette gauche, aujourd'hui, la gauche du mouvement, c'est effectivement l'Assemblée des Assemblées. Mais l'Assemblée des Assemblées, c'est 200 à 250 ronds-points. Au départ, il y a 2500 ronds-points. Donc c'est quand même, c'est 10%. Hein. Même en janvier, c'est 10%.
Oui, mais il n'y a rien d'autre sur le plan national. C'est pas vrai.
Si,
il y a des choses tout à fait artificielles.
Après, il y a un centre. Et le centre, c'est les porte-paroles. Alors, c'est moi ce que j'appellerais des auto-entrepreneurs de mouvements sociaux. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des, ou les femmes, elles ont des blogs, des pages Facebook, oui, des trucs avec des fois 200, 300 000 personnes qui sont, et qui les suivent.
Oui, mais sans rapport avec l'idée d'une démocratie,
c'est une forme
de mandat, Patrick, sur la base de mandat, évidemment.
Donc, mais la démocratie,
la question qui est posée là, c'est la différence entre le mandat
justement, il faut comprendre
et
que
les porte-paroles.
Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la question de la démocratie, elle se joue de façon plus compliquée.
D'accord. Alors justement,
je voulais finir simplement. Et la droite, c'est effectivement tous ces trucs un peu complotistes. Ils ne sont pas nécessairement des militants fachos, mais c'est ces idées qui passent par les réseaux sociaux, qui sont ensuite, y compris au sein des ronds-points, défendus par des gens et tout ça. Et ça fait partie de la question de la démocratie aujourd'hui, telle qu'elle est vécue concrètement, par les gens. C'est pas simplement les soviets avec des mandats, etc.
On va revenir sur, je pense, sur les enjeux que vous voulez soulever, Pascal, parce qu'il me semble très important. Mathilde, sur ces questions de dynamique aussi et de forces politiques diverses en présence, qu'il ne s'agit pas de nier, bien sûr.
Je vais essayer de répondre rapidement. Je vais répondre rapidement. Tout mouvement populaire, et plus encore quand il est de nature révolutionnaire, parce que quand on étudie les révolutions sur tous les siècles des révolutions, c'est-à-dire quand même 3 siècles, on a quand même, au bout d'un moment, on voit apparaître des choses qui se retrouvent d'une révolution à une autre. Tous sont plurivoques. Je veux dire, ça n'existe pas une révolution qui soit univoque politiquement. Et toutes, par ailleurs, sont aussi interclassistes. C'est le propre de la révolution. Donc, ces phénomènes sont absolument normaux. Ensuite, dans la mise en récit, la mise en image, etc., des révolutions par ceux qui sont vainqueurs ou par ceux qui sont vaincus, va s'imposer une lecture. Et effectivement, à chaque fois, enfin, dans les différentes révolutions, on peut le faire sur chacune, il y a une des parties, à la fois sociale et souvent politique, qui gagne, qui l'emporte. Et donc, ça passe à un univoque qui écrase les autres, et les autres ont l'impression que quelque chose leur a été volé, spolié, etc. L'autre chose juste, c'est que ce à quoi il faut faire attention quand on compare les mouvements actuels et les révolutions du passé, en termes d'organisation, quand on se pose la question de la place des organisations, Lénine ou peu importe, où est le Robespierre, où est le machin, on peut chercher les différents leaders, c'est que, en gros, jusqu'au XXe siècle, on est dans des structures pré-organisation, pré-partisane. Le parti n'existe n'existe pas, l'organe n'existe pas, le syndicat n'existe pas. C'est donc un horizon qui peut être considéré comme positif, hein, parce que justement l'absence d'organisation est contraire de fait à la démocratisation de la vie politique et à la lutte. Sauf que nous sommes actuellement dans un système qui n'est pas pré-partisan ou pré-syndical, mais qui est quelque part, la question est à se poser, post, au sens où ces partis et ces syndicats ont existé. Ils ont fait, pour certains cas, leurs preuves, hein, et leurs preuves, elles sont réelles, mais en même temps, ils ont fait preuve de leurs limites. Et donc, ils n'exercent plus une attraction, un espoir, ils ne sont plus porteurs du même espoir que pouvaient être, dont pouvaient être porteurs des organisations similaires 50 ans ou 60 ans auparavant. Donc, on ne peut pas comparer. Il y a des fois où c'est utile de comparer présent et passé, mais là, en fait, ça ne marche pas parce que les organisations, elles sont actuellement déconsidérées.
On serait sur un moment nouveau, alors ?
Oui, je pense qu'on est sur un moment.
Un troisième moment, en fait.
Oui, oui.
Pré-partis, les partis, les organisations, oui. Et là, quelque chose de très libertaire.
Peut-être. Ici même, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de dire sur quoi on est d'accord face au pouvoir, face à sa violence, c'est de dire quelles questions nouvelles pose aux gauches de l'émancipation ce mouvement. Et ce mouvement, c'est ça qu'il acte. C'est ça qu'il acte. Il faut dire franchement, qu'elle soit radicale ou réformiste, les organisations dont nous parlons sont des organisations où il y a très peu de militants liés à la société, où il y a des élus, des apprentis élus, des collaborateurs d'élus ou des professionnels de la politique, des activistes. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand il y a c'est là où ça pose une question. Il y a tout d'un coup le surgissement d'un mouvement populaire authentique. Et ce que nous avons en commun, c'est de l'avoir senti à la situation, dans les situations professionnelles ou militantes qui sont les nôtres, et ce mouvement a mis en cause ça. Quand je parle de la non-assistance, c'est ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, il n'avait plus les capteurs pour réagir, pour comprendre, et pour comprendre. Et en effet, la nouveauté 18e-miste ou 19e-miste, pour moi, c'est un mouvement qui, en ce sens, ramène un imaginaire tout à fait positif de cette République démocratique et sociale, mais qui est un imaginaire, je dirais, d'avant la défaite de la Commune de Paris, d'avant les théorisations sur les avant-gardes, d'avant les théorisations sur le parti qui doit être le bataillon, qui, etc. Et c'est ça qui est nouveau. Nous nous retrouvons, en effet, en 1789, 1793, 1830, les Marianneux, 1848. Artistes. Oui, voilà, avec toutes les tendances, des francs-maçons, des libertaires, des gens qui passaient d'une éthique à l'autre et qui se retrouvaient dans le commun de ça. Et ça, et des plus radicaux, des moins radicaux. Et ça, il y a une nouveauté. Et cette nouveauté, elle est immensément précieuse, elle est immensément prometteuse, d'autant plus que le mouvement est toujours là, d'autant plus que ça bouge partout dans le monde de manière massive, d'autant plus que d'autres causes arrivent. Et donc, le moment qui est devant nous, c'est est-ce que, après avoir compris ce que nous sommes en train de dire, qu'une occasion, est-ce que l'occasion va être rattrapée ? Et est-ce que l'invention va être là ? Pour moi, c'est l'enjeu. Quand on voit ce qui se passe dans les différents secteurs pour les manifester, pour la grève du 5 et d'après, c'est l'enjeu. Et c'est l'enjeu. Au sens, c'est le moment pour moi de gloire des Gilets jaunes. Il se joue là, devant nous. C'est-à-dire, c'est comme une course relais. Et est-ce que la course relais va se faire ?
Alors, Edoui, ça veut dire quoi ? C'est que les organisations appellent à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, non. Ou simplement que tous soient Gilets jaunes ? Parce que tu parlais tout à l'heure,
c'est encore
Pascal,
c'est la gilet jaunisation
oui.
du mouvement
ou
social.
Ou de militants qui sont venus à titre individuel,
qui
se sont présentés à titre individuel.
C'est la jeunesse.
Moi, j'ai
générale.
Vu des cégétistes comme ça venir dans les actes.
C'est accepter qu'un mouvement comme nous tous, qu'un mouvement nous transforme, qu'un mouvement nous amène à poser des questions. Quand on a vu le surgissement le 8 décembre, où il y a à la fois l'immense répression, et il y a en même temps la convergence à la République, car c'était le climat, fin du monde, c'est pour nous le même combat, ou un gilet jaune prend la parole, ou Cyril Dion, qui est un pacifiste, dit ce que les gilets jaunes nous ont appris, c'est qu'on ne changera rien sans rapport de force. Hein. J'ai retrouvé récemment cette formule.
Je suis pas sûr que ça soit très bien placé pour parler de rapport de force.
Mais moi, je ne donne pas de brevet. Tout le monde est bien placé pour parler. L'ordre présent est le désordre du futur. Mmh. L'ordre présent est le désordre du futur. C'est une phrase écologiste. C'est une phrase écologiste. Saint-Just, moi, je ne donne pas de brevet. Donnez, puisque vous me convoyez.
Les brevets.
Voilà, l'ordre. Donnez tous les brevets que vous voulez. Moi, non, je prends toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues au banquet de l'émancipation, d'où qu'elles viennent.
Alors, en fait, il y a des enjeux politiques actuels, et c'est intéressant qu'il y ait aussi des clivages d'interprétation ici. Il me semble que ce qui est notamment très fort, c'est précisément de ne pas dépolitiser ce mouvement, donc être conscient aussi des problèmes politiques qu'il soulève. Et Pascal, dans ton livre « La vie en jaune », en fait, il me semble que tu en pointes un certain nombre dont je voudrais proposer la liste et qu'on en discute pour parler justement des perspectives de démocratie que le soulèvement des Gilets jaunes pose. Le premier clivage, c'est la distinction entre une partie souverainiste et une partie libertaire au mouvement. Voilà, ça c'est un clivage qui est majeur, qu'on ne peut pas contourner, on ne peut pas faire comme si ce clivage n'existait pas. Ensuite, il y a un deuxième clivage qui est entre, d'une part, une démocratie de mandat, d'assemblée des assemblées, de perspective de l'Assemblée des communes libres à Commercy, d'une part, et d'autre part, des représentants autoproclamés des Gilets jaunes, qui ont eux-mêmes des positionnements politiques variés. La troisième question qui est posée et que Edoui, tu posais tout à l'heure, à l'instant, c'est le fait que des militantes et militants d'organisations politiques, mais aussi syndicales, des syndicalistes de terrain qui se sont reconnus dans le mouvement des Gilets jaunes, qui sont venus parfois avec leur organisation, parfois à titre individuel, et qui ont été aussi métamorphosés par ce mouvement, qui ont été présents et qui ont vu se transformer aussi leur rapport au terrain. Et puis la dernière question qui se pose, me semble-t-il, et donc tout ça on peut en discuter, c'est justement cette question fondamentale de la démocratie. Parce que d'un côté il y a le RIC, mais comme on le sait bien, le RIC, le référendum, peut avoir un usage bonapartiste, peut avoir un usage autoritaire. Et donc il y a différents usages de ces modalités de réappropriation de la démocratie. Autre chose est un courant qui se dessine justement d'une démocratie libertaire, d'une démocratie liée au communalisme, la commune des communes, etc. Pascal, est-ce que tu veux justement revenir un peu sur ces clivages dont tu parles bien dans ton livre, et puis on pourra avoir cet échange sur la question de la démocratie peut-être.
Oui, moi je crois que cette question de la démocratie directe, la démocratie participative, c'est une question dont il faut d'urgence discuter pour sortir de ce qu'est une impasse politique et savoir de quoi on parle. Et dans une situation politique, je crois qu'il faut essayer de sentir, comment dire, les courants dominants. J'ai vu dans les assemblées des assemblées que effectivement il y avait ce clivage entre des gens qui ne croient pas à la possibilité d'une sortie de la situation de l'impasse de ce capitalisme grâce à l'État. Et puis des gens qui, au contraire, sont en fait des sociodémocrates de gauche ou bien des bonapartistes de gauche ou bien des gaullistes plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite, ou bien des gens qui sont carrément à l'extrême droite et qui sont tout à fait convaincus qu'il faut un État fort, avec un certain nombre de politiques, sortir de l'Europe, etc. Et que c'est cela qu'il faut mettre en avant. Je pense très clairement qu'aujourd'hui, c'est cette mouvance-là qui est majoritaire, pas seulement dans le mouvement des Gilets jaunes, qui est majoritaire dans ce pays. Moi, ça me pose un problème politique. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut que cette discussion ait lieu, par exemple, de savoir ce que c'est que la démocratie directe. Est-ce que la démocratie directe, c'est comme explique Étienne Chouard, s'en remettre à des experts qui vont nous expliquer ce qu'il faut penser et comment il faut s'organiser. Qu'est-ce que c'est que la démocratie organique, par exemple. Moi, j'ai très peur de cet organicisme qui renaît et qui est souvent d'ailleurs une des tendances des moments révolutionnaires, c'est-à-dire la croyance qu'il suffit d'être ensemble, qu'il suffit de construire, une sorte de… Sartre appelait ça le groupe en fusion, de construire une sorte de fraternité-terreur, il appelait ça aussi la fraternité-terreur, pour que les choses aillent bien. Ce que Sartre expliquait aussi, c'est que la fraternité-terreur, ça peut tourner très mal, surtout lorsque le groupe se met à penser qu'il faut s'identifier à un type d'organisation. Et la notion de nation, qui est quand même tout à fait au cœur de ce mouvement, me pose problème. C'est-à-dire qu'il est évident que dans ce mouvement, tout le monde s'accorde sur la nation, mais il semblerait bien qu'il y ait des gens qui ne mettent pas la même chose sous ce mot. Et la discussion ne peut pas avoir lieu à cause de cet apolitisme de façade, et je pense que c'est dangereux.
Mathilde, tu évoquais, justement, tu hochais la tête quand tu entends la diversité qui peut être sous-tendue dans la nation.
Non, de toute façon, la nation, dans le genre mot-valise dans lequel on peut mettre la moitié de 10 armoires, c'est quand même... La nation, ça ne veut pas dire la même chose en 1789, ça ne veut pas dire la même chose de nos jours. Donc moi, à chaque fois qu'on dit nation, j'aimerais bien qu'on m'explique de fait ce qu'il y a derrière.
Comme le drapeau tricolore qui est brandi avec différentes significations qu'on peut lui associer dans le mouvement des Gilets jaunes.
Tout à fait, et qui a une histoire révolutionnaire et une récupération d'abord solennelle et ensuite un dérapage d'extrême droite. Et de même, la démocratie directe, quand même, à la base, elle vient de 93, elle vient plutôt de la gauche. Hein. Tout ça, en fait, tout ce qui est compliqué, c'est que tous ces mots, ils résonnent bien, etc. Mais en fait, à chaque fois, il faudrait les définir dans le détail, voir exactement ce qu'il y a derrière, ce que ça implique.
Patrick, oui, sur ton...
Moi, j'ai vécu quelques expériences communes, notamment les trois assemblées des assemblées, et première, et les ADA. Et en fait, c'est drôle parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Quoi. J'ai vécu ça, pas de façon... Je sais bien que ces clivages existent. Mais les gens ne les ressentent pas de cette façon.
C'est-à-dire que toi, qu'est-ce que tu ressens?
Eh ben, je te dis que
parler au nom des gens.
Non, je te dis.
Gens?
Et les gens et moi. On peut être avoir à la fois une demande d'État, parfois. C'est-à-dire pour dire voilà, il faut que l'État joue son rôle de redistribution, etc. Et en même temps être profondément, par exemple, moi je suis communaliste, je suis comme les gens de Commercy, je suis pour l'organisation municipaliste, etc. Je suis presque proudhonien, etc. Et je pense que ça peut aller ensemble dans les mêmes têtes. Donc, si tu veux, ce qui a été formidable, c'est le métissage justement de ces idéologies qui étaient clivées. En fait, moi, je suis pour une souveraineté, mais une souveraineté populaire, écologique. Les paysans de Via Campesina, ils sont pour une souveraineté alimentaire. On peut être pour une souveraineté énergétique dans ce pays. On peut avoir plusieurs types de rapports à la souveraineté.
Mais donc, je pense que ça veut dire quoi, souveraineté?
Justement, c'est-à-dire que, en réalité, c'est drôle ce que tu as oublié, le mot d'ordre de fin de Commercy, c'est dans tous leurs appels, y compris celui auquel j'ai un peu participé, c'est pour le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple.
C'est Abraham Lincoln.
Ouais, c'est Lincoln. Oui, c'est pas aller très loin non plus, Lincoln. Non.
Mais attends, l'important, c'est que les gens. L'important, c'est que les gens se le soient réappropriés. Il faut comprendre que l'appropriation et la politisation par des gens de classe subalterne qui ne s'étaient jamais mis au combat, c'est ça qui transforme le rapport à la réalité politique. C'est pas un débat de surplomb idéologique qui tombe. Parce que là, les gens, d'ailleurs, ils ne savent même pas ces références. Et ça ne les intéresse même
de
pas.
De savoir si c'est Lincoln ou...
Voilà. Oui, ce qui nous intéresse tous, c'est que ça débouche sur le changement politique.
C'est-à-dire que... Parce qu'on parlait tout à l'heure de regarder avec les phares devant. Quel est l'imaginaire qui se dessine? On a parlé de république démocratique et sociale.
L'imaginaire, je l'ai dit un peu.
Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est une sorte de point focal ou...
C'est-à-dire, on veut vivre bien, on veut vivre ensemble, alors quelque part, je m'excuse, c'est revenir au fondement, on veut la liberté, l'égalité, la fraternité.
Et même la sororité.
Et la sororité, si tu veux.
Et oui, non, ces questions de souveraineté, de démocratie.
Pose une question importante. Moi, mon point de vue dans le bilan documenté, ce n'est pas un point de vue d'en haut, c'est par le travail de la collectivité de Mediapart, c'est que le danger tout à fait réel et tout à fait dominant dans l'espace public, dans l'espace politique, qui a contaminé non seulement évidemment depuis l'extrême droite, la droite, le centre, mais la gauche, ce danger, c'est évidemment le piège du repli nationalisme, de l'identité qui exclut. Ce piège, pour moi, il n'a pas été diffusé d'en bas par le peuple. Profondément, il vient d'en haut. Il vient d'en haut sur 40 ans. on l'a vu, l'ethnicisation des grèves ouvrières, appelée la marche pour l'égalité contre le racisme, la marche des beurs, la captation, la confiscation par SOS Racisme de l'auto-expression de classes populaires issues de notre longue histoire coloniale, le multiculturalisme de notre société, toutes des questions qui sont au cœur de l'islamophobie, de la négrophobie, de toutes les questions d'aujourd'hui, et on voit bien toutes les poupées gigognes. Donc tout ça est là, bien sûr. Et on a vu comme tout ça était, évidemment, c'est dans la société, c'est un mouvement populaire, donc ça se retrouve chez les Gilets jaunes. Mais quelle a été la dynamique des Gilets jaunes ? Quand Macron dit « ceux qui manifestent le samedi font la politique du pire », c'est qui fait la politique du pire et qui fait la courte échelle à l'extrême droite ? C'est les Gilets jaunes ? Non, c'est Macron. C'est Macron. Et la dynamique globale des Gilets jaunes, la dynamique de politisation a été en sens inverse. Au bout d'un moment, les mêmes d'extrême droite, je parle de Marine Le Pen, de la force politique d'extrême droite qui semblait flirter avec les Gilets jaunes, se sont mis à cogner sur des manifestants et ont fait surenchère sur la répression policière. C'est les mêmes qui disent « il faut tirer dans le tas, il faut ceci, etc. » Ils sont du côté de cet ordre-là. Donc, c'est ce que j'appelle une dynamique de politisation. C'est comme sur la laïcité. Je viens avec mon foulard, avec ma kippa, avec ma croix et tout. Et puis après, si on discute de qu'est-ce qu'on fait ensemble, des droits des femmes, de l'avortement, on change, on bouge. Donc, c'est le même mouvement. Donc, bien sûr que tu as totalement raison pour dire qu'aujourd'hui, le danger, il est là, mais il vient d'en haut, et y compris. C'est très important, parce que, et dans notre histoire, tous ces poisons-là sont venus toujours d'en haut, parce qu'ils ont contaminé les forces de gauche. Le chevènementisme a été l'atelier de ça. Je suis désolé, mais Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, tout ça, ça vient de là. Ça vient de là. Bon, ce qui est arrivé au sein, j'ai regardé sur des vidéos récentes, au sein de la France insoumise avec la partie qui est partie et qui est souverainiste, ils se retrouvent avec les anciens du Dupont-Aignan, avec etc. Ils sont dans cette logique identitaire de repris. Quand il n'y a qu'un, c'est comme un escalier, hein, on dévale la première marche, c'est-à-dire qu'on passe du côté, on est une nation supérieure. On est une culture supérieure, on est un pays supérieur, on oublie le monde. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est pour ça, hors antenne, je montrais aux participants cette vidéo qui a fait 25 millions de types qui se fait appeler Cobb Johnson, qui est un migrant, un chauffeur routier, et qui a fait le tube des Gilets jaunes. Et c'est sur un rythme africain, ça se passe comme une boîte à Kinshasa, ou etc. Donc moi, ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a eu des samedis où il y avait à la fois les jeunes pour le climat, il y avait les Gilets jaunes et il y avait le comité Adama. Ouais. Pour les quartiers populaires. Et là, nous sommes dans le moment. J'insiste, cet automne, c'est quoi ? On a la bataille sur le terrain de l'islamophobie avec la caricature qui a été faite de cette superbe manifestation populaire.
Où c'est les vrai gens que... reprenaient des chants des Gilets jaunes.
Bien sûr, bien sûr.
Ils y mettaient l'islamophobie.
Et ils disaient liberté, égalité, fraternité. Et ils disaient oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant.
Ils disaient voilées, femmes voilées, non voilées, c'est aux femmes de décider.
Et en même temps, on a le mouvement MeToo, avec l'effet Adèle Haenel qui débloque le blocage français, soi-disant la galanterie, etc. Tout ça. On a, et c'est très intéressant de voir que les adversaires, ceux qui ont diabolisé les Gilets jaunes, ceux qui ont montré une haine du peuple, c'est les mêmes qu'on retrouve contre MeToo, contre les musulmans, et qui disent que Greta Thunberg, c'est une enfant et qu'elle a fermé, que c'est une demeurée sur le climat. Et ça, moi, c'est cette dynamique-là qui me rend optimiste.
Tout petit peu plus compliqué que ça.
Mais c'est toujours plus compliqué.
Y compris actuellement dans la gauche.
Je l'ai dit au début de mon livre. Tu sais, nous sommes partis d'une situation que nous connaissons parfaitement. Elle est résumée par Gramsci. Il y a un vieux monde qui est en train de mourir et qui n'a pas envie de mourir. Il y a un nouveau monde qui tarde à naître. Dans cet entre-deux surgissent les monstres.
Oui.
Nous savons que la course de vitesse. Mais après Gramsci, 3 ans après, il ajoute une chose. Et par rapport à tous ceux qui voudraient avoir des assurances, savoir comment ça va, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va marcher, il s'en prend au prédictologue. Et il dit la seule chose qu'on peut prévoir, c'est la lutte. Agis oui. en ton lieu oui. et pense avec
mais
le monde. Donc
bien
moi,
d'accord.
je ne voudrais mais... pas qu'ici, on donne l'impression Alors. Qu'on a l'idée de ce que devraient être les prévoir. Gilets jaunes à leur ouais. place.
On va prévoir pour ouais, finir, Edoui. On va essayer de prévoir pour finir. Voilà, un an de Gilets jaunes, le 5 décembre, les mois qui viennent.
qu'est-ce qui va se passer dans notre pays. Si vous pouvez chacune et chacun nous dire ce que peut-être vous rêvez de voir, ou ce à quoi vous allez participer, ou ce à quoi vous appelez. Si, si, en tant que gilet jaune, puisque vous l'endossez ou vous avez forte sympathie pour le mouvement des gilets jaunes. Patrick, on commence peut-être par toi.
Que moi, je pense que d'abord, effectivement, je suis d'accord avec Plenel sur pas mal de trucs, sur le 5. C'est-à-dire que le 5, il y a une période, disons, d'incertitude de l'événement, qui d'ailleurs a été au fond de cette histoire des gilets jaunes. C'est quoi? C'est comme mai 68, c'est un événement. Et l'événement produit quelque chose et contamine les autres événements à venir. Voilà, l'inattendu. Et c'est ce qui va se passer le 5, en fait, et c'est ça dont ceux d'en haut ont peur, c'est que ça peut être inattendu, c'est que ça peut se prolonger le 6, le 7, le 8, et pendant jusqu'à Noël, et, ou peut-être après.
Et donc,
non, moi je dis pas, c'est autre chose. Moi je pense que c'est plutôt ce qu'ont fait d'ailleurs les Gilets jaunes l'année dernière. Ils ont fait la première grève, ça a été un peu mis sous les radars, de la consommation, parce qu'ils ont bloqué les centres commerciaux pendant le Black Friday. Et je pense que la question de le blocage de la distribution et de la circulation des marchandises, ça va être ça l'objectif. Plus que le mythe de la grève générale.
Et je pense que les cheminots,
ils sont au centre.
Les salariés de la RATP se disent pas que c'est un mythe, la grève générale. En fait, ils sont en train d'y travailler, de la préparer.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des millions de gens qui ne sont pas dans. On est passé de la question de la production à celle de la distribution dans ce monde. Et par exemple, il y avait beaucoup. Oui, je suis d'accord. Sauf que la différence avec mai 68, c'est qu'il n'y a plus Billancourt, il n'y a plus les grosses usines Citroën.
Le vrai problème, c'est Amazon.
Ce
dont tu rêves, c'est une c'est pas une cristallisation, non, c'est un ensemencement du mouvement d'un an de gilet jaune.
C'est un ensemencement avec un deuxième rêve. C'est que je pense que dans 4 mois, il y a les municipales. Et que je pense que dans... et là aussi, ça passe sous les radars. Ça ne sera pas dans les grandes... Bon, les grandes villes, il y aura les résultats, etc. On calculera qui a gagné ici ou là. Mais dans des centaines de villages ou de petites villes de moins de 15 000 habitants où les gilets jaunes ont pesé, il y a en ce moment des listes qui se constituent. Ce n'est pas nécessairement des listes de gilets jaunes. C'est des listes qui se disent de citoyennes, des listes de... Bon, n'importe quoi, mais qui sont fondamentalement marqués par l'esprit gilet jaune, c'est-à-dire un peu le communalisme. C'est l'idée de Bouchine, des communes libres, le municipalisme. On retrouve d'ailleurs l'esprit de la commune. Et ça, je pense que ça va être véritablement une tendance de fond, y compris parce qu'il y a une crise des mairies, etc., pour plein de raisons.
– C'est un espace parfait pour la démocratie.
– Exactement, exactement. Et donc, je pense qu'il va y avoir une sorte de truc entre deux, entre comment abattre finalement ce Macron, l'État tel qu'il est, etc., et puis la reprise du pouvoir qui, va se marier avec toutes ces initiatives qui sont multiples ce qu'on appelle la transition écologique et autres. – Voilà.
Avec en janvier à Commercy l'Assemblée des communes libres.
– Exactement.
Voilà. – Mathilde.
– Non mais la question est super dure. Moi en fait je me rends compte, alors c'est peut-être un défaut d'historienne, c'est que comme l'histoire montre que n'importe quoi peut arriver tout le temps, je ne prévois rien, je n'attends rien.
– Qu'est-ce que tu espères ?–
J'accompagne, de toute façon.
– Tu seras là, tu es là.
– Voilà, c'est un peu, tu sais, c'est Rosa Luxembourg dans son dernier article, bon le problème c'est qu'après elle crève, donc je ne viens pas de sortir, mais… Où que ce soit, je serai là. Voilà. Donc
et
j'attends.
Tu es là.
Je
et
suis
là.
Voilà. C'est vraiment.
On est là.
Parce que mais oui, mais en même temps, de fait, tu vois, on peut faire soit des grandes cassantes, c'est atroce, il va se passer ça, soit des grands. Et puis, c'est forcément autre chose qui va se passer.
Mais on peut avoir des espoirs. En
fait. Ah, ça, des espoirs. Des espoirs, j'en ai. Mais en attendant, voilà.
Tout la seule chose que je peux dire. Il va se passer quelque chose.
Mais de toute façon, il se passe toujours quelque chose.
Non,
d'inattendu.
Plus ou moins.
Voilà. C'est la surprise du surgissement. Et
mais
de
je serai là, soit pour lutter contre, soit pour lutter avec.
Pascal ?
Moi, j'attends que cette. J'espère et j'attends et j'y participerai que cette grève soit absolument massive.
Ah, et ça, c'est sûr.
Et j'ai très peur en même temps que de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que je pense que si les gens ne descendent pas dans la situation qui existe là, où on est en train vraiment de réduire tout ce qui avait été gagné dans des situations exceptionnelles d'ailleurs, de ce capitalisme, notamment en 1945, c'est en train d'être entièrement détruit. Il n'y a plus de marge de manœuvre de la social-démocratie. Donc je pense que les gens, j'espère que les gens vont prendre conscience que justement c'est un autre monde qui doit naître. Et un autre monde qui doit briser les féodalités capitalistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller jusqu'à dire ça. Il faut que les gens soient conscients que si on ne brise pas ces féodalités, alors certes, ce sera très bien, on se fera des listes municipales, etc. Je suis très touchée par cette fibre communaliste et j'espère qu'on va reprendre possession des territoires par le bas, parce qu'effectivement, cette République française, dans ce qu'elle a eu de mieux, elle s'est construite par les communes, il n'y a aucun doute là-dessus, tout le monde va être d'accord. Et en même temps, je crois que le point, c'est les féodalités capitalistes. C'est-à-dire que c'est quand même ça le point dur et que ça ne va pas se passer comme ça. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils sont prêts. Enfin, le point de blocage, c'est quand même la Ve République. C'est-à-dire qu'ils sont là au pouvoir, ils vont tenir, ils vont continuer à éborgner des gens. Ils veulent que leur politique passe, mais ils n'ont pas un doute sur le fait qu'ils vont réussir.
Donc, Pascal,
et moi, ces gens me font peur. Ces gens me font peur.
Pascal, donc, j'ai tu peur parles bien de révolution. Tu dis que ça, forcément,
je pense qu'il faut que les gens prennent conscience qu'il faut construire un rapport de force beaucoup plus puissant que celui qui a été construit jusqu'à présent pour que ces féodalités capitalistes cèdent. Et je pense qu'après, il y a des gens comme Piketty, il y a différents. Je pense qu'il faut construire un socialisme démocratique, oui, et qu'on a tout à inventer. J'écoutais la discussion entre Piketty et Badiou l'autre jour, je la trouve très passionnante. Comment construire un autre monde ? Comment construire ? Non, mais peu importe, comment construire un nouveau monde ? C'est ça notre souci, là.
Edoui, tu parles dans ton livre d'une Ve République qui est à l'agonie, qui est une République césariste, qui est une République bonapartiste, qui n'a aucune raison d'être vénérée comme un. C'est le cas aujourd'hui. Quel est ton espoir aussi par rapport peut-être à ces institutions ?
Elle est pas. Je suis pas sûr que j'écrive à l'agonie parce qu'elle se défend.
Si, c'est
oui, mais elle se bat pour.
Elle se défend. Terriblement.
Comment dire ? Parce qu'elle a contaminé, y compris toutes les forces politiques partisanes qui s'y opposent et qui ne cherchent qu'une chose, c'est qui sera le candidat. Et c'est une machine à perdre et une machine à mourir. Non, je pense que premièrement, on le dit tous, on n'a qu'une chose à faire, c'est parier sur l'événement, l'inattendu. Pourquoi ? Parce que la catastrophe, elle n'est pas devant nous, elle est déjà là. La catastrophe, c'est que ça dure comme avant. Elle est là au niveau de la catastrophe écologique, de la catastrophe sociale, de la catastrophe démocratique. Elle est là, cette violence est là. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la brutalité de ce pouvoir qui a dévoilé la grand-peur, une grand-peur des possédants. Hein, parce qu'ils ont peur, c'est pour ça. Donc on ne peut parier que sur l'événement. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, moi, je suis journaliste, agis en ton lieu, pense avec le monde, dans un journal sans frontières. La seule chose, c'est d'accompagner, et ça, c'est peut-être ce qui nous différencie certains. Moi, je ne suis pas dans l'idée de penser ou de problématiser à la place d'un mouvement en cours ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait dire. Moi, je suis là pour accompagner toutes ces convergences dans la mesure où ce sont des convergences démocratiques et sociales. Si ce sont des convergences vers le pire, vers la régression, vers la haine, évidemment, elles romperont ce pacte. Et là, s'inventera du nouveau, car il faut qu'elles s'inventent de l'inédit. Nous sommes, et c'est mon dernier point, nous sommes dans un pays où ce mouvement surgit sur fond d'une catastrophe des gauches, qui n'ont pas cessé de faire la querelle de leurs petites différences. C'est la phrase de John Holloway. Hein. On est comme dans un film de science-fiction, les murs de la pièce se rapprochent, on est là, hein. Et puis les gauches, elles sont en train de discuter de la répartition des meubles. Bon. Et nous sommes dans le bilan du catastrophique quinquennat Hollande-Valls. Nous sommes là, et où les sectarismes ont pesé, où les divisions ont pesé. Donc les gauches ne peuvent pas prétendre dire à ce mouvement ce qu'il faut faire. Elles doivent apprendre de lui, elles doivent l'accompagner, elles doivent se plonger. Et donc, en effet, la question, mais ce n'est pas nous qui avons la réponse, c'est que la réponse, elle viendra si, en effet, c'est massif. Et si c'est massif, cela posera aux gauches une question fondamentale. C'est que si c'est massif, ça posera la question de remettre en cause le jeu où les gauches perdent, c'est-à-dire la course des petits chevaux, c'est-à-dire le piège de la Ve République. parce qu'elles y sont toutes encore. On est à 2 ans et demi, mais à 2 ans et demi, toutes pensent qui est-ce qui, lequel sera. Et ce piège est mortifère depuis 40 ans, depuis qu'en clair que la gauche s'est convertie à la Ve République avec Mitterrand. C'est de là.
Et au néolibéralisme.
Mais bien sûr, mais ça va ensemble. Ça va ensemble. Si elle s'est convertie, c'est bien parce qu'elle a pris cet instrument, parce qu'elle s'est convertie à la politique des classes dirigeantes. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le fait que ça a contaminé des forces politiques qui ne l'étaient pas au départ. Ça a contaminé le Parti communiste, ça a contaminé les gauches socialistes.
Et
donc, non, mais elle s'allonge. Donc, ce que je veux dire, parier sur l'événement. Être l'accompagner, être là et espérer.
On est peut-être un d'une révolution, peut-être, et de toute façon, vous y étiez déjà par vos livres, par vos œuvres, par vos présences, c'est ce qui nous réunit bien sûr, et j'ai cru comprendre que vous y serez encore tant que ça durera.
Nous y serons pour conjurer la peur aussi, parce que ce gouvernement veut nous terroriser, parce qu'il a peur lui-même, parce que c'est la grande peur des possédants qu'évoquait Edoui Plenel. Donc conjurer la peur, ça suppose en effet d'être là et le 5 et les jours suivants, dans une perspective véritablement de rapport de force frontale.
Et petit message à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, les livres, c'est important, ce sont aussi des armes, ça a été dit, ce sont des actes, les médias. Merci Edoui pour représenter aussi Mediapart. Merci le Média qui nous accueille tous. Voilà, souvent, Ludivine et moi, nous disons c'est comme les murs qui se rétrécissent et ceux qui se focalisent sur quelle sera ma chaise. Ce temps est révolu. Il est maintenant temps qu'il y ait une union des médias, des journalistes, des écrivains, des sociologues, des historiens, des artistes, des photographes.
Pour qu'on repousse les murs.
Pour que l'on repousse les murs et que l'on cesse d'être dans le strict partage d'un vieil héritage.
Merci beaucoup. Alors, on voulait aussi évoquer deux ouvrages qui nous semblent vraiment très importants. D'abord, celui de Jérôme Bachet, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce que tout simplement, il est assez loin. Il est au Chiapas, au Mexique, et il vit avec les zapatistes une forme de communalisme libertaire au quotidien. Mais on a vraiment beaucoup aimé son livre qui s'appelle « Une juste colère, interrompre la destruction du monde ». On espère bientôt recevoir Jérôme dans une prochaine émission. L'autre livre que l'on veut évoquer dans le prolongement de ce qui vient de se dire sur l'hospitalité, sur les formes de respect, de dignité, de reconnaissance mutuelle. C'est ce très beau livre de sociologues et de photographes, Brice Le Gall, Thibaut Ciseaux et Lou Traverse, qui s'intitule « Justice et respect, le soulèvement des Gilets jaunes ». Et on va écouter Brice Le Gall nous parler de la manière dont il a perçu le mouvement.
Dès début décembre, on a compris avec Thibaut et Lou que le mouvement était un mouvement décentralisé, qui n'avait certainement pas lieu, dont le cœur n'était certainement pas Paris. Et donc on est parti enquêter, essentiellement en Picardie, plus particulièrement dans l'Oise, sur 3 ronds-points qui étaient en train d'être construits, notamment à Senlis, à Chevrières et au Bois de Lius. Et donc on a frappé à la porte d'une cabane un soir de début décembre, je me rappelle, après une manifestation parisienne. Et on a été accueillis par Gaylor, Jessica, enfin un petit groupe de gilets jaunes qui se pelaient dans une de leurs cabanes. Là, on était dans la boue et à partir de ce moment-là, l'aventure a commencé. En fait, on a suivi ces gens ensuite pendant presque un an. Voilà, tous ensemble, on a gardé des contacts et on les a suivis dans les différents événements qui ont lieu toute l'année. C'est d'abord un témoignage sur le monde social, sur le fonctionnement des classes populaires. Et une volonté de soutenir les gilets jaunes dans leur combat. Ça, c'est un point important. C'est pas quelque chose qu'on a écrit pour les intellectuels ou pour les militants, mais d'abord pour essayer de rendre un peu utile la démarche sociologique et la photographie sociale à ces personnes. Voilà, donc on est tous les trois sociologues de formation. Et si vous voulez, au bout d'un moment, on en a eu assez en fait, d'écrire des articles, d'écrire des livres qui ne nous parlaient qu'à nous, qui ne parlaient qu'à nos pères. Et donc c'est une tentative, cette articulation de documentaire et de sociologie, de rendre utile un petit peu ce que la connaissance sociologique peut apporter à la transformation du monde social. Alors on ne sait pas du tout si on réussit à faire ça, mais c'est, en tout cas c'est l'objectif de départ de ce livre, c'est ça. D'où un espèce de tiraillement sans cesse entre la description fine, rigoureuse du mouvement, et puis en même temps... la volonté d'être utile à ces personnes-là en utilisant notamment l'image pour entrer dans l'analyse et faire entrer le plus grand nombre de personnes possible dans l'analyse. On s'est efforcé de mettre l'accent dans le bouquin sur la manière dont les Gilets jaunes sont parvenus à neutraliser leurs divisions, notamment neutraliser les divisions entre... ce qu'on appelle les assistés et les établis, entre les immigrés et les classes populaires et les Français dits de souche, entre guillemets, entre les classes populaires des villes et celles des campagnes. On essaye de présenter un certain nombre d'analyses qui permettent de comprendre la force, en fait, la puissance du mouvement, la manière dont ce mouvement a pu tenir, à quelles conditions. Alors pour moi, c'est d'abord une expérience humaine, en fait, très très forte, hein, parce que... On peut connaître théoriquement, en sociologue, les effets du néolibéralisme. On peut connaître statistiquement les accidents du travail, etc. Donc, quand on rencontre en chair, en os, ces personnes, ça prend un tour très différent, en fait. On a d'abord une obligation de témoigner, en fait, pour ces personnes, en fait. Une obligation de les défendre symboliquement, déjà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous lie énormément aux gens qu'on a rencontré tout au long de l'enquête. Et voilà, donc on essaye de faire au mieux notre travail sous ce rapport-là. Quoi. En fait, c'est la réception du bouquin qui nous dira, en fait, si on a bien bossé ou pas. Hein. À notre connaissance, il y a eu peu de tentatives jusqu'à présent d'articuler une approche documentaire de photographie sociale et en même temps ne pas renoncer à son boulot de sociologue et transmettre des chaînes d'analyse sociologique. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça va vraiment parler aux Gilets jaunes? Est-ce que des gens vont pouvoir se réapproprier ce qu'il y a dans le bouquin? Écoutez, on ne sait pas pour l'instant. Mais on n'avait que ça à faire, en fait, avec Thibaut et Lou, parce que, encore une fois, voilà, on ne voulait pas se parler à nous-mêmes, on ne voulait pas parler uniquement aux intellectuels ou aux militants. On voulait vraiment un travail utile, enfin, qu'on espère utile aux Gilets jaunes.